de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler cinéma, une demi-heure aussi eh bien, dans laquelle nous allons jouer avec un blind test. Ce blind test aujourd'hui sera consacré à des films qui portent le nom d'une ville, tout simplement. Alors pourquoi? Parce que je vais vous parler du film Morlaix, du nom de la sous-préfecture du Finistère, film de Jaime Rosales. Donc ce sera le jeu, mais il y a un film que beaucoup attendent, Sophia, et c'est toi qui vas nous en parler.
Et oui Vincent, moi, je vais vous parler de Juste une illusion, d'Olivier Nakache et Éric Toledano.
Et puis toi, Guillaume, tu as deux films.
Oui, je vais vous parler du dernier Gus Van Sant, La corde au cou, et puis du dernier Gore Verbinski, Good Luck, Have Fun, Don't Die.
Mais nous faisons un retour dans le passé. En 1985, un garçon de 13 ans traverse ses premières questions sur la famille, l'amitié et le passage à l'adolescence. Nous parlons de Juste une illusion.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Dis donc, je sais pas où tu vas, toi, mais je crois qu'au niveau parfum, on est pas mal, hein. Hé, hey. Tu t'appelles comment? Stressé, hein? Ah, c'est normal d'être stressé. Je vais te raconter une histoire. Je devais avoir comme toi, 13 ou 14 ans.
Allez, salut papa.
Ah, d'accord.
Alors, est-ce qu'il y a un duo de cinéastes plus fiable, plus drôle et rassurant dans le paysage de la comédie française que Toledano et Nakache? Bon, je vous laisse répondre à cette question rhétorique. Depuis Je préfère qu'on reste amis il y a 20 ans, ces deux-là ont construit une filmographie très solide. L'inoubliable Nos jours heureux, Intouchable, qui a affolé les compteurs avec près de 20 millions d'entrées, ou encore Le sens de la fête. Au total, 8 films, plus de 30 millions de spectateurs cumulés en France. Bah, on pourrait parler de vraies légendes. Et leur force, à tous les deux, c'est de faire des comédies populaires, pas simplettes pour autant, des films qui font franchement rire, qui émeuvent, qui observent la société avec une tendresse lucide et jamais condescendante. Ce 9e long métrage, Juste une illusion, emprunte son titre, clin d'œil magnifique, au tube du groupe Imagine Nation de 1982, plus qu'à celui de Jean-Louis Aubert. Et pour le porter, ce récit, les réalisateurs ont réuni deux acteurs, actrices absolument formidables, Louis Garrel, élégant et légèrement lunaire, hein, comme toujours, et Camille Cotin, qui continue de confirmer qu'elle est l'une des comédiennes les plus complètes de sa génération. Les deux forment un couple de cinéma immédiatement crédible, dans l'amour comme dans la dispute, et croyez-moi, des disputes, il y en a. C'est une comédie dramatique, comme souvent chez eux. Ils ont puisé dans leurs propres souvenirs d'enfance pour ce récit, pour nourrir leur personnage, mais aussi le décor de l'appartement et les situations. Le film est d'ailleurs dédié à leurs deux pères, décédés pendant le tournage, et cette dimension-là irrigue chaque scène d'une sincérité toute particulière qui en fait sans doute leur film le plus personnel.
Bonsoir.
Salut maman.
Qu'est-ce que tu fais?
Un ping-pong.
Nous sommes en 1985. Les Dayan vivent en banlieue parisienne dans un immeuble pour famille de la classe moyenne. Le père, Yves, joué par Louis Garrel, est cadre au chômage et le cache à tout le monde. Son chômage, hein, parce que son statut de cadre, ça c'est quelque chose qui revient sans cesse comme un gimmick comique. La mère, Sandrine, interprétée par Camille Cotin, est une secrétaire qui rêve d'évoluer, hein, notamment grâce à l'arrivée de l'informatique. Et au centre de tout ça, il y a Vincent, bientôt 13 ans, qui prépare sa bar mitzvah et navigue entre un grand frère passionné de New Wave, sombre et inaccessible, et des parents bah, qui se disputent à longueur de journée. Vincent n'est déjà plus un enfant, mais pas encore un adulte. Hein. Cet entre-deux-là, délicat, où tout est question, tout est nouveau, premier amour, premier mensonge, première grande question sur l'identité, la famille et la religion. Le film suit cette période charnière, ce moment suspendu de la vie, en 85 donc, l'année de SOS Racisme, du groupe Téléphone, des doudounes roses qu'on teint en noir parce que c'est moins cher comme ça.
Bon, écoutez Sandrine, permettez-moi que je me permette. Voilà, vous y allez. En douceur.
Hein. Oui, bon, monsieur Berger, je crois que ma femme a compris le principe.
Dans la vie, il faut faire des choix.
C'est que moi, je suis pas vous.
Tu ne parles pas comme ça.
Je te parle comme je veux.
T'as pas honte d'écouter mon parc, là?
Vincent est avec une copine. Ça me rappelle des bons souvenirs.
Quand on s'est connus?
Non, avant.
Oh, t'es con.
Le film commence avant même de commencer. Dès les premières secondes, les logos des sociétés de production défilent au générique, mais dans leur version d'époque. Le Canal Plus d'avant Bolloré, avec son brouillage pixelisé, Gaumont et sa Marguerite des années 80, TF1 Film Production, dans son costume rétro. Le ton est donné, on est dans une fiction du souvenir, annoncée avec un humour pince sans rire délicieux. La photo d'Augustin Barbaroux prolonge ça, avec une image chaude, légèrement surexposée, laiteuse, au pastel délicieux. Lavé, quelque part entre la pub de céréales du samedi matin et la photo de classe surannée. Le cadre, souvent serré sur les visages d'enfants, capte cette intensité étrange de l'enfance hein, et donne au jeune Simon Boublil, dans sa sidération gueule ouverte et yeux écarquillés face au monde, quelque chose qui rappelle les ados de Mysterious Skin de Greg Araki. L'adolescence comme un état à la fois banal et cosmique, hein, où chaque détail est chargé d'une intensité disproportionnée. Les références directes, elles, dépassent d'ailleurs le clin d'œil. Hein. La bande-son signée Gogo Penguin oscille entre funk et new wave, d'Imagination à The Cure, et installe en intradiégétique une vraie texture d'époque. Et quand le film convoque le cinéma, et par exemple un homme et une femme, c'est pour se permettre d'en jouer franchement dans la mise en scène. Même le langage échappe à une reconstruction muséale des années 80. Hein. Quand les jeunes s'exclament « Oh, galère, la pluie !», l'expression passe aussi bien en 1980 qu'en 2020. On n'est donc pas dans la nostalgie facile du « c'était mieux avant », mais dans quelque chose de plus ambigu. Une époque où le chômage, des cadres notamment, battait son plein, où les femmes prenaient leur place et où les illusions étaient encore permises. Elle est là, hein, l'illusion du titre, un vernis d'optimisme qu'on se fabrique pour rester debout face au réel. Côté casting, Louis Garrel et Camille Cotin sont impeccables, Pierre Lottin est parfait en Monsieur Berger, le voisin intrusif, et Simon Boublil impressionne.
Ah non! Non. Pourquoi vous garez là? Pour votre place, ben, c'est à 38.
Oui, je sais bien, Monsieur Berger, mais ça fait 10 ans que je me gare à la 26.
Oui, j'ai compris, oui. Mais votre place, c'est la 38.
J'aime beaucoup la qualité formidable de votre écoute, parce qu'on n'a pas du tout progressé dans la conversation, là, si?
Ouais, je sais bien.
Ça marche pas, pourtant j'ai fait du piano.
Ah oui, moi j'ai fait de la mandoline.
Ah bon?
Bah non.
Oh, qu'est-ce que c'est drôle.
Bon, alors, écoutez, Sandrine, permettez-moi que je me permette. Voilà, vous y allez. En douceur, voilà.
Oui, bon, monsieur Berger, je crois que ma femme a compris le principe. D'ailleurs, je préférerais qu'on garde madame Dayan.
On peut y aller, on va être en retard, merci.
Et Sandrine.
Madame Dayan.
Alors c'est vrai que le film a quand même tendance à adoucir ses angles politiques, à transformer la France de la crise en tableau chaleureux. Mais bon, c'est peut-être la signature Nakache Toledano, ne pas nier le réel, mais lui opposer de la chaleur humaine. Et franchement, dans la France de Macron, on prend.
Juste une illusion, le film du duo Nakache et Toledano est en salle depuis le 15 avril. Un homme venu du futur débarque dans un diner de Los Angeles pour recruter des clients ordinaires contre une IA malveillante. Nous parlons de Good Luck, Have Fun, Don't Die.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Il va vous donner tout ce que vous avez toujours voulu. Mais au final, ce sera un gros mensonge.
L'histoire d'Hollywood est parsemée de ce qu'on appelle des rise and fall, hein, des carrières qui tutoient le sublime avant de sombrer dans l'oubli le plus crasse. Alors c'est un peu ce qui pend au nez hein, de Gore Verbinski, hein, qui fut un temps le champion de Disney avec la trilogie d'origine des Pirates des Caraïbes, carton stratosphérique encore très populaire aujourd'hui. Après l'accueil un plus mitigé de son faux western moderne Rango, hein, pourtant tout aussi excellent, ce fut la douche froide avec le pourtant très sympa A Cure for Life, dont il réutilisait certains éléments thématiques de son adaptation avortée du jeu vidéo d'anthologie BioShock. Presque 10 ans après, le voici de retour avec Good Luck, Have Fun, Don't Die, un film au générique énigmatique qui est peut-être l'une des raisons de son méga bide aux États-Unis. L'autre raison étant, à coup sûr, ben, le coup de poing culturel et sociétal à charge pamphlétaire du long métrage, hein, qui en fait un objet de sale gosse tout à fait précieux et recommandable.
Bonne chance, éclate-toi et meurs pas.
T'as dit quoi?
Arrête
révolution commence ce soir.
Sous ses airs de balade comique, hein, Good Luck, Have Fun, Don't Die, soit Bonne Chance, Éclate-toi et Ne Meurs Pas, est un pur morceau de punk cinématographique, hein, qui est tellement retourné contre notre époque qu'il ne cherche pas la sympathie. Alors on suit l'arrivée, hein, d'un individu au look improbable dans un café à la tombée de la nuit, qui annonce à tout le monde que la fin du monde est imminente et qu'il a besoin d'aide, hein, pour contrer la mise en place d'une IA qui va transformer la population du globe en esclaves dignes d'un film de Body Snatchers, hein, comme dans L'invasion des profanateurs de sépultures. Alors passé un casting sauvage d'entre les clients, la petite troupe dysfonctionnelle va se lancer dans une épopée burlesque, hein, pour rejoindre un lotissement en apparence anodin où se tiendrait un enfant sur le point de déchaîner les enfers sur Terre. Au fur et à mesure, hein, qu'ils franchissent plus ou moins bien les différents pâtés de maison, on découvre via des flashbacks le passif chargé, parfois très récent, hein, de ces différents protagonistes et ce qui les a amenés à devenir ces pseudo-élus, hein, qui vont tenter de changer la face du monde. Mais personne, y compris le spectateur, hein, n'est à l'abri de ces surprises.
Viens du futur! Les choses vont pas bien se passer pour vous dans le futur! Ce soir, on a une chance. Dans ce resto, nous avons la configuration parfaite de gens qui peuvent sauver l'humanité.
Il se passe quoi si on se plante?
Verbinski fait partie de la génération de David Fincher, hein, Alex Proyas ou encore Michael Bay, hein, qui se sont fait un nom et une réputation grâce à leurs clips, soit de petits courts-métrages annonçant l'éclatement à venir de leur style et certaines de leurs thématiques. Verbinski a signé les meilleurs clips, hein, du légendaire groupe de punk Bad Religion, hein, et c'est donc tout naturellement à eux, hein, qu'il fait un clin d'œil quand on remarque que Hayley Lou Richardson porte un t-shirt orné de la couverture de leur album Recipe for Hate. Mais dans cette scène clé qui résume, bah, toute la lutte physique et, mais surtout, philosophique et existentialiste du scénario, bah, on pense forcément leur clip 21 Century Digital Boy où Verbinski montrait déjà un jeune garçon enfermé chez lui, hypnotisé par un écran bleu et annonciateur d'un futur qui ira mal à cause de la corruption des enfants. Comme dans Good Luck, Have Fun, Don't Die, le ton est joyeux, le rythme est entraînant, mais les paroles sont sombres et le message entre les lignes est carrément sinistre. En 2026, l'écran est toujours bleu et la dépendance et les dérives qui s'en suivent sont plus que jamais d'actualité.
Toute votre existence vous a préparé pour cette nuit.
Et tout va bien se passer! Ou pas, on verra.
On n'en sait rien.
Et c'est probablement ça qui rend le film si précieux, hein, ce ton coincé entre faux humour et total désespoir. Good Luck, Have Fun, Don't Die, hein, se veut fun avec ses atours à la Terminator et Retour à le futur, mais bascule inexorablement vers la fable cyberpunk sombre et fataliste au fur et à mesure qu'on se rend compte que le moissonnage du cerveau des humains se fait non pas comme une guerre combattue que l'on perd, mais grâce à un avilissement volontaire. Le voyageur temporel, hein, joué par Sam Rockwell, n'en est du coup que plus touchant car il tente de courir contre la fatalité de l'homme qui sacrifie la vraie vie contre un confort stérile et lénifiant. Et là où le film fait très fort, c'est qu'il reste ouvert sur le fait qu'une catastrophe visible et annoncée n'affole pas plus que ça les gens, comme si, à l'image d'une tragédie plus si antique, elle était inévitable et que ses conséquences monstrueuses n'étaient pas si graves. Hollywood a beau, hein, ne pas arriver à remaker Akira, hein, et ce n'est pas grave quand on voit le dernier Verbinski, vu que sa réappropriation moins cyber mais plus punk est bien plus originale et pertinente, hein, sur notre époque qu'une vulgaire décalcomanie. Il reste plus qu'au public français de suivre, hein, ou alors c'est qu'il est déjà matrixé, comme diraient les jeunes.
Ce film, Good Luck, Have Fun, Don't Die, qui n'a pas fonctionné aux États-Unis, va peut-être mieux marcher en France quand même. On change, mais totalement d'univers et de cinéma. Nous allons en Bretagne avec Gwen qui hésite entre son amoureux Thomas et l'étudiant magnétique Jean-Luc, jusqu'à ce qu'un film vu au cinéma s'empare de son histoire. Nous parlons de Morlaix.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Je vais aller à Morlaix le week-end prochain.
Ah bon?
Ça fait longtemps. Ça fait même un siècle.
Morlaix, c'est une ville française, précisément sous-préfecture du Finistère, mais c'est aussi le titre du nouveau film de Jaime Rosales, réalisateur espagnol qui avait connu le succès, alors il y a plutôt longtemps, avec La Soledad. Tombé visiblement amoureux de cette petite ville de 15 000 habitants, le réalisateur a décidé d'y ancrer son histoire, ou soyons précis, une grosse partie de son histoire. Car dès le début, il donne le ton en associant des plans de la sous-préfecture à d'autres images où l'on voit une tour Eiffel. Et donc, on est à Paris. C'est que le film va aussi nous emmener dans la capitale pour une forme d'épilogue.
Ça commence.
T'es belle. Vraiment comme ça, t'es belle.
Les gars, c'est le nouveau là-bas.
Tu lui as déjà parlé? Tu le connais?
Non, il est trop mignon.
C'est un parisien, non?
Bah oui, il aurait choisi Morlaix.
Bah carrément, oui.
Bien sûr.
Évidemment, à Morlaix, personne ne va te trouver.
Moi, c'est Jean-Luc.
Moi, c'est Hugo.
Morlaix n'appartient pas au film pour tout public, non. Hein, mieux vaut avoir été bercé par la Nouvelle Vague ou par Jean Eustache, dont le réalisateur espagnol semble rendre un hommage pour prendre du plaisir à voir ce long métrage qui nous fait partager les tourments de Gwen et ses amis. Alors Gwen est une adolescente qu'on devine en terminale, elle vient de perdre sa mère et vit avec son jeune frère à Morlaix, évidemment. Elle a une histoire avec Thomas, le fils du boulanger, mais le trouble apparaît quand Jean-Luc, un Parisien beau et atypique, débarque dans la classe. Alors on le devine, c'est un marivaudage auquel nous allons être confrontés. Gwen résiste, Jean-Luc fait tout pour l'assommer de choisir, lui livrant un ultimatum. Alors dans le même temps qu'on suit cette histoire, nos personnages s'en vont voir un film dans lequel ils semblent jouer leur propre rôle, mais ça ne les dérange pas du tout, et comme le ferait tout le monde après avoir vu un film, eh bien ils débriefent, certains en philosophant, car ces jeunes Bretons ont de l'esprit, des sentiments et de la répartie. Pour tout dire, ils ne sont pas de notre époque. Ont-ils une époque d'ailleurs? On n'en sait rien. Ils ne consultent pas de portable, ne s'osent pas devant un écran, ne font plus de mobilette ou de scooter, mais il parle. Ah ça oui, il parle.
Lui, je trouve que c'est quelqu'un de spécial.
Oui, dis-moi plus.
Parce qu'en fait, il dit des choses qui sont pas forcément vraies, mais t'as très très envie de le croire.
Mais là, quand tu me regardes, tu penses à quoi?
Je te regarde, moi?
Non.
Qu'est-ce que vous êtes dit avec Jean-Luc? Vous êtes resté quand même pas mal de temps.
On a dû rester une heure à peine, ça va?
Ouais, mais en une heure, vous avez le temps de vous dire des trucs quand même.
Tu l'aimes?
Bien sûr que je l'aime.
Tu veux savoir si elle t'aime? On se retrouve lundi au Viaduc à 10h30. On lui demande qui elle aime. Il faut qu'on sache.
J'aime Rosales, c'est connu hein, pour les expérimentations, ça ne coupe pas ici. Hein. Si les récits se chevauchent avec des mises en abîme osées, les fameux personnages que l'on voit reprendre l'histoire qu'ils vivent dans un film, leur permettant de se mettre à distance, eh bien il choisit aussi de changer les images. Nous passons d'une image couleur en 16 mm à un cinémascope en noir et blanc une fois que Gwen a grandi et se retrouve la quarantaine pharmacienne à Paris. C'est cet épisode qui nous apprend le choix qu'elle a fait hein, entre les deux garçons, et pour en remettre une couche, eh bien elle aussi retourne au cinéma où décidément, il ne semble y avoir qu'un film, celui de sa vie.
Elle va venir, t'inquiète.
On perd notre temps.
On perd jamais notre temps quand on cherche l'amour. Jamais. Maintenant, tu nous dis qu'il t'aime, voilà, comme ça on sait.
Tu veux vraiment savoir?
Oui.
Réflexion sur les sentiments, hommage au cinéma et aux questions comme tourment qu'ils mettent en scène, Morlaix est un film à part où la jeunesse parle bien. Nous n'avons pas là des consommateurs, mais des êtres sensibles, dévoués aux autres, soucieux de s'élever et de prendre les bonnes décisions. Le Morlaix du titre est un cadre hein, pour ces jeunes, comme une limite qu'il faut dépasser, Gwen n'ayant qu'une envie, quitter la ville pour une plus grosse, pourquoi pas Paris. La particularité de ce film est qu'il semble s'inventer à mesure qu'il avance, en multipliant les récits et points de vue, et pour tous ceux alors qui n'aiment ni Romère, auquel j'ai quand même beaucoup pensé, ni Jean Eustache, mieux vaut passer votre chemin. Ce film, donc, qui porte le nom d'une ville, nous donne l'occasion de jouer à un blind test où il faut deviner des titres de films qui sont une ville, mais vraiment une ville, c'est-à-dire ce ne sont pas les Demoiselles de Rochefort ou les Parapluies de Cherbourg, on est d'accord. Allez, c'est le premier extrait.
Oubliez tout ce que vous avez vu à la télévision ou dans les films. Il n'y aura pas de témoins surprises de dernière minute. Personne ne s'écroulera à la barre en faisant des aveux larmoyants. Nous allons simplement vous présenter des faits. Andrew Beckett a été licencié. Vous allez entendre deux explications de ce licenciement, la nôtre et la leur. C'est à vous qu'il incombe de filtrer chaque parcelle, chaque fragment de vérité jusqu'à ce que vous puissiez déterminer laquelle des deux versions vous semble la plus vraie. Il y a certains points qu'il me faudra prouver. Point numéro 1, Andrew Beckett est un brillant avocat, de premier ordre. Point numéro 2, Andrew Beckett, affligé d'une maladie qui affaiblit l'organisme, a fait le choix compréhensible, personnel, et conforme à la loi de ne pas révéler qu'il souffrait de cette affection.
Bah, il y avait des indices.
C'est Philadelphia, oui. De Jonathan Demme.
Oui, film de 93 avec Tom Hanks et Denzel Washington, un avocat brillant et licencié après avoir révélé sa séropositivité. Il attaque son cabinet en justice avec l'aide d'un confrère d'abord réticent. 1,8 million d'entrées en France. Deuxième extrait, sachant que ce blind test, hein, j'ai quand même fait des recherches et il n'y a pas tant de films qui portent le nom d'une ville. Allez, deuxième extrait.
Comment on va se mettre à flot ? Il faut qu'on lâche un peu de lest. Du poids. Il faut qu'on perde du poids.
Du poids. Du poids, oui. Oui.
Un homme doit descendre de ce bateau.
Tu te portes volontaire ?
Aucun besoin d'un volontaire. Je connais quelqu'un qui devrait quitter ce bateau. Cet homme-là. C'est un espion allemand.
Fais pas l'imbécile.
Je vous dis que c'est un Fritz. Il a pas dit un mot, vous avez remarqué ? Moi, j'ai remarqué. Il parle pas notre langue. Quand il parle, c'est avec un accent qui pue la choucroute à plein nez.
T'es un idiot. Dis-lui.
Oui ? Dis-moi.
Alors, c'est trouvé, ce film que tu détestes.
C'est Dunkerque de Christopher Nolan.
Eh oui, Dunkerque, comme je ne sais plus comment ils disent.
Non, Dunkerque.
Oui, un truc comme ça. Avec notamment Tom Hardy. En 1940, des centaines de milliers de soldats alliés sont encerclés sur les plages de Dunkerque. Une évacuation désespérée s'organise entre terre, mer et ciel. Une structure temporelle que moi j'ai beaucoup appréciée. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié. 2,5 millions d'entrées en France pour ce film. Troisième extrait, nous cherchons le titre d'un film qui est une ville.
C'est drôle, votre voix n'a pas changé. Il me semble que je l'entends encore me dire « Mon Rick chéri, je te suivrai partout et j'irai s'il le faut jusqu'au
non,
bout du monde. »
Non, Rick, je sais, je comprends ce que vous ressentez.
Ça, ce sont des choses qu'on dit. Ça a duré combien de temps, nous deux ?
Je n'ai pas compté les jours.
Eh ben moi, je les ai pas oubliés. Et je me rappelle surtout le dernier. L'effondrement d'un pauvre type sous une pluie battante devant une gare avec un sourire crispé et avec le cœur déchiré.
T'as trouvé la bonne réponse.
Eh oui, parce que je suis tellement habitué à l'exceptionnelle version originale de ce chef-d'œuvre de Michael Curtis. C'est Casablanca ?
Oui, donc film avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman à Casablanca. Un expatrié américain retrouve l'amour de sa vie, désormais marié à un résistant. Il doit choisir entre ses sentiments et un acte décisif contre le nazisme en cumulé. Ça fait 4,3 millions d'entrées en France depuis 1942. Allez, un nouvel extrait pour ce blind test. Nous cherchons le titre d'un film avec une ville.
Cette robe me donne l'air d'un abat-jour de magasin minable à 3 sous. Je veux pas la mettre.
Tu vas la mettre parce que je te dis de la mettre.
Je mettrai pas cette robe.
Et quand Andy sera là-bas, je veux que tu tricotes.
Que je tricote. Il manquait plus que ça.
Une brassière de bébé.
Je sais pas tricoter.
Eh bien, apprends.
Si je veux gagner la sympathie des jurés, c'est pas comme ça.
T'as plus besoin de conseils en amour.
Hé, hey, dis donc, monsieur le porte-parole. Je te rappelle que si quelqu'un ici a de bonnes idées, c'est quand même moi. J'en ai plein le dos qu'on me dise ce que je dois faire. Tu me traites comme si j'étais de la crotte. Tu sais quoi ? Tu me traites comme si j'étais une minable, une vulgaire criminelle.
Mais tu es une minable et une vulgaire criminelle.
C'est quand même moins miteux qu'un avocat marron qui se prend pour un dandy.
Et sans qui tu finirais au bout d'une corde.
Et qui dépouille les gens pour s'engraisser.
Ça me parle, c'est un doublage des années 80.
Non, un peu plus quand même. Les années 2000-2002 pour être précis.
Ah bon ?
Deux femmes accusées de meurtre deviennent des célébrités grâce à un avocat manipulateur interprété par Richard Gere. Entre musique et scandale, la justice se transforme en
Chicago.
Spectacle. Et oui, comédie musicale de Rob Marshall. 2 millions d'entrées en France pour ce film.
Par justement la voix.
Et encore une fois.
De Richard Gere, de son doubleur, son faible doubleur.
Eh oui, mais pourtant, voilà, oui. C'est toujours le même. Donc, nous terminons ce blind test avec un dernier extrait.
Bon, je l'ai vu. Tout ce qu'il devait. Ça y est, je l'ai. 40 000 pour toi et 40 000 pour moi. Et voilà. Je te laisse la camionnette. Je prends la Sierra. On la partage. Et tu la partages comment, la bagnole ? Hein, gros débile ? Avec une putain de tronçonneuse ?
Il y en a un des deux qui paie à l'autre la moitié de ce qu'elle vaut.
Attends, ça, putain, jamais. T'as vu ça, connard ? Il s'est pris une balle, putain ! J'ai pris une balle dans la gueule. J'ai été chercher ce putain de pognon et j'ai pris une balle dans la gueule. Merde, je suis debout depuis 36 heures, putain de Dieu.
La scène est beaucoup plus longue, elle me fait toujours rire. Alors, c'est Steve Buscemi, c'est la VF de Steve Buscemi. C'est un film de 1996. de deux frères.
Les frères Cohen.
Eh oui, c'est Fargo.
Ah oui,
eh non, oui, mais qui est le nom d'une ville. Eh oui,
ah, ah oui, alors question d'ailleurs, la ville existe ou pas du
oui,
tout?
Oui, elle existe.
Ah ben c'est pour
alors
ça
sauf qu'on la voit juste au début, mais l'intrigue se passe dans une autre ville en fait. Ouais. Voilà. Mais on la voit au début. Un vendeur de voitures endetté organise l'enlèvement de sa femme, mais le plan dérape et plonge le Minnesota dans une série de crimes absurdes. Et c'est Frances McDormand qui mène l'enquête. 700 000 entrées en France
et
pour
enceinte.
Ce film. Eh oui, ainsi s'achève ce blind test. Retour de Gus Van Sant sur grand écran avec un fait divers de 1960. 77 dans l'Indiana, plongée stylisée dans les années 70 et leurs marginaux. Nous parlons de la corde au cou.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
On est à l'antenne?
Non, mais c'est enregistré. Parlez-moi.
Et oui, comme tu dis, un fait divers qui va bouleverser l'Amérique. Et donc en 77, hein, Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d'un emprunt pour l'achat d'une future zone de commerce, ben, franchit le point de non-retour en kidnappant Richard Hall, le fils du courtier, responsable de sa situation dramatique. Alors particulièrement revanchard, hein, il réclame les 5 millions de dollars dont il se sent lésé et des excuses franches et publiques de ce qu'il estime être un vol, mais aussi un viol de sa confiance. Alors Kiritsis se déplace du bureau de Hall et s'enferme dans son appartement, ayant pris le soin de piéger l'endroit pour ne pas être délogé prématurément et par la violence, hein, par la police. Armé, dangereux mais pas inconscient, il est déterminé à aller jusqu'au bout et surtout veut voir son plan marcher. Alors la prise d'otage va durer en tout 63 heures, mais ne s'isole pas qu'entre quatre murs. La radio, hein, puis la télévision locale, puis enfin la télévision nationale vont s'emparer de l'affaire et en faire les gros titres. L'Amérique se passionne instantanément pour cette affaire qui va se faire déchirer hein, les spectateurs en deux camps. D'un côté, les indignés de la violence de Kiritsis et les indignés d'un système qui étouffe les petits. Car la vraie question est, Tony, est-il un criminel ou simplement une victime qui réclame justice ?
Je suis pas un homme riche. Je suis pauvre, en fait. Ça m'a jamais dérangé. Mais ces gens m'ont trahi.
Alors le choix du titre français, hein, la corde au cou est intéressant, hein, parce que d'un côté c'est une traduction astucieuse de Dead Man's Wire, hein, soit la corde de l'homme mort, qui fait penser à la corde, hein, autour du cou du pendu. Alors le pendu c'est un symbole fort, hein, qu'on peut associer au personnage principal du film. Étranglé par ses créanciers, étouffé par ses soi-disant associés, hein, il est dans la position d'un pendu virtuel, hein, à qui le capitalisme et l'avidité a passé une corde au cou pour mieux l'éliminer et profiter de ses possessions. Alors étant donné qu'il est question de hors-la-loi, de prise d'otage, d'armes à feu, de policier-shérif, d'ordre d'une petite ville perturbée et de lutte pour un territoire sous fond de libéralisme exacerbé, ben on est bien dans un récit américain qui évoque la mythologie du Far West. La corde au cou fait aussi bien évidemment allusion au dispositif mis en place par Tony Kiritsis, hein, autour du cou de Richard Hall. Ben c'est le détail qui change tout dans cette affaire de kidnapping. L'arme de Kiritsis, hein, est attachée à la nuque de Hall, ce qui fait que si on essaie de lui enlever ou si on lui tire dessus, ben Hall est à coup sûr, hein, assuré de voir sa tête partir avec le coup de feu du fusil à pompe. Alors ce dispositif mortel est un témoignage, bah, de son intransigeance et du fait que son geste n'est pas improvisé mais mûrement réfléchi, bah, à l'image de son immeuble piégé. Et qu'on quitte très vite, hein, l'aspect criminel et sensationnaliste que la presse aimerait exploiter, bah, pour un état de fait bien plus terre à terre mais aux conséquences tout aussi dramatiques, quand le désespoir transforme la lutte des classes en lutte armée comme dernier recours.
Ils font tout pour leurrer les pauvres gens. Ils les appâtent avec une petite miette du rêve américain et ils les bouffent.
Je vous écoute, Tony.
Alors le système et ses enclaves, Gus Van Sant les connaît bien, hein. Il a déjà mis en scène, hein, un marginal braqueur dans Drugstore Cowboy. Les médias et leur manière de broyer le quidam, hein, pour en faire un sujet de 20 heures, ben ça il a déjà étudié dans Le Brillant Prêt-à-Tout. Les désaccès qui passent à travers les mailles d'un filet supposément protecteur mais complètement déformé, ben il en a fait une palme d'or, hein, méritée, avec Elephant. Ben ici il ressuscite, hein, les 70s pour mieux parler de l'Amérique et du monde d'aujourd'hui. Alors si l'histoire de Kiritsis a marqué son époque, hein, ben elle est dramatiquement d'actualité, hein, ben avec les multiples crises traversées par les classes moyennes complètement appauvries. Et l'aspect dramatique est convoqué avec le lien entre Kiritsis, hein, et la voix d'Indianapolis, hein, un DJ à la radio qui, bah, tel un cœur antique, hein, se fait bon gré malgré, hein, le relais oral de ses revendications à la ville et donc au monde. Alors ce qui est amusant dans la corde au cou, hein, bah, c'est qu'on pense forcément aussi à un autre grand film célèbre, hein, dont le point de départ est le même, bah, c'est bien sûr Un après-midi de chien, hein, de Sidney Lumet, un célébrissime film de braquage qui tourne mal et qui est entièrement du côté des braqueurs. Et c'est pour ça, hein, qu'il y a Al Pacino d'ailleurs au générique de la corde au cou, hein, dans le rôle du père véreux de Richard Hall qui refusera jusqu'au bout de capituler même pour son fils qui ne doit pas être un investissement si riche à ses yeux. Voilà, alors le souci c'est que bon, bah, malgré sa sublime, hein, je tiens à le dire, reconstitution des années 70, dont de super superbes fausses archives vidéo. Et ces acteurs fabuleux, il faut bien le dire, le récit est quand même un petit peu moins prenant que la montée en tension progressive dans l'après-midi de chien, car il ne se passera au final pas vraiment beaucoup de choses qui inspireront plus que ça, la mise en scène de Gus Van Sant. Donc La Cour d'Ocou, c'est vraiment intéressant parce que, encore une fois, on a un film qui utilise un film d'époque pour parler de la nôtre, mais la conclusion est peut-être moins aussi pétaradante que son point de départ.
En tout cas, La Corde au cou de Gus Van Sant, et tu le rappelais, qui est un palmé d'or, est en salle depuis le 15 avril.
Terminé pour aujourd'hui.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Ça ne servirait à rien de le nier.
On se retrouve la semaine prochaine et tu auras deux films, Guillaume.
Oui, je vais vous parler d'À voix basse et puis je vais vous parler du dernier Keanu Reeves, Chantage.
Et on parlera aussi de La Poupée et des Fleurs du Manguier, mais si tout va bien, à la semaine prochaine.